selon son vœu pas.
Chaude voix de Tita Nzebi au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste, et Urbi comme Urbi, ça n'a pas changé, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeur, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement. C'est ouvert du mardi au samedi, ouais, en fin de matinée pour ce qu'est le samedi, et pour le reste, c'est 14h, 13h
13h30.
13h30, hein, voilà. C'est une très très bonne librairie, et des très très bons libraires, faut quand même dire les choses comme elles sont. Hein. Bon, on est bien sûr Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, bah, y compris celle d'Éric Rond-de-Pierre. Bah, voilà. On va en parler de son opus, de sa fugue opus 36 aux éditions Marest. Et malheureusement, aussi, monsieur Nicolas Éprand, vous connaissez un peu le studio ou pas?
Oui. J'espère que ma carrière va enfin lancée. Carrière,
voilà. Et alors, autre question assez importante, est-ce que vous connaissez Monique?
Je connais bien Monique, et sans elle, nous ne serons rien.
Voilà, ça je le fais pour dire. Alors, vous êtes là, on va faire une émission paradoxale, un grand écart, parce que moi je vais parler de cette fugue opus 36 d'Éric Rond-de-Pierre. Bah oui, il est mort, donc il peut pas être là, mais c'est aussi quand, à quoi sert la littérature, c'est quand même un dialogue. C'est quand même un dialogue, et ça se situe aux exacts antipodes de votre sujet. Pour un col. On va se dire tu, c'est plus facile.
Oui, on peut se dire tu.
Le succès ne nous a pas grisé.
Non, pas du tout. Il est resté très simple.
D'accord. Et donc, il y a un colloque qui se prépare, c'est quoi? J'ai pas très bien compris.
Vas-y, je t'en remercie. Alors, il y a un colloque qui se prépare, ça va se tenir le 14 juin, c'est à l'initiative du groupe Commune de Paris de la Fédération anarchiste. Donc, le 14 juin, le thème du colloque, c'est art et anarchie. Ce sera à Montreuil, au local de l'AERI, et j'ai pas l'adresse en tête, mais c'est tout près du métro Croix de Chavaux, et le temps de qu'on en reparle, je trouverai l'adresse. Ce voilà, et ça sera toute la journée, en tout cas, avec différentes interventions sur ce thème art et anarchie.
Et ton sujet, c'est
Moi, j'ai proposé de parler d'Élisée Reclus et de la peinture.
Donc, on verra. Donc, je suppose qu'on va passer par Proudhon, quand même.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y aura une petite introduction sur la manière dont la peinture est perçue du côté des grands penseurs de l'anarchie, entre autres Proudhon, qui est un peu...
Avec tous les dangers que ça véhicule.
De parler de Proudhon ou
non, de vouloir moraliser l'art, enfin, c'est un peu ça.
Ou de lui assigner une fonction, en tout cas.
Oui, ouais. Ou même de le moraliser, ouais, parce que moi je pense que oui. Donc on verra ça tout à l'heure. Est-ce que ça ne peut pas prendre le risque de déboucher sur ce qu'on a appelé plus tard le réalisme socialiste, c'est-à-dire en URSS, on voyait ces braves gars avec des fossiles et des marteaux, le torse nu, les glaneuses qui couraient après. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là?
Et c'est vrai que on y reviendra plus dans le détail, mais les propositions qui sont un peu celles de Proudhon, entre autres, c'est-à-dire quand même d'un art avec une fonction, avec un rôle à jouer dans la Révolution, effectivement, ça évoque ce que deviendra le réalisme socialiste soviétique, notamment, et puis du côté de la Chine de Mao aussi.
On va voir tout ça. Mais Bakounine est beaucoup plus...
Absolument, hein, il fait beaucoup plus confiance à l'art qu'à la science, d'ailleurs,
qui est paradoxal. Oui, bien sûr. Mais je ne vais pas tout trahir de ta vie intime, bien que je sache des choses inavouables. Je croyais que tu avais un sérieux goût pour James Ensor.
Alors oui, effectivement, nous avions, hors micro, parlé un peu de James Ensor, qui est un personnage assez singulier, que je n'ai pas suffisamment exploré, mais c'est aussi un peu le mystère Ensor qui m'intrigue. Et nous avions lu quelques textes. Il y avait des textes d'Ensor qui avaient été publiés dans une revue qui s'appelle Des Pays Habitables, qui est menée par Joël Cornuau, que je salue. Et donc, à l'occasion d'une présentation à la Halle Saint-Pierre, j'avais lu quelques textes d'Ensor qui sont absolument délicieux.
Bon, on prendra rendez-vous à faire une émission. On y arrivera à y arriver.
Quand on en avait parlé, mais on va y
arriver. Quand monsieur voudra bien. Fugue opus 36. C'est publié aux éditions Marais. C'est très joliment fait, d'ailleurs. C'est une couverture d'Éric Rondepierre. Donc, je réitère, il est mort. Mais j'aurais bien aimé avoir ce dialogue avec lui. D'accord ou de désaccord, encore une fois, la littérature, c'est aussi fait pour ça. La couverture est en rouge et noir. Et c'est une photo d'Éric Rondepierre, d'ailleurs, qui s'intitule « Arsenic et vieille dentelle ». Arsenic et vieille dentelle. Et ça me fait penser à un graffiti qui est resté très longtemps près du studio. C'était marqué « L'arsenic ». Et oui, ça m'a toujours fait rire. Donc ce livre, c'est un très très beau livre, c'est un livre à tiroir qui implique plein de... qui raconte une histoire d'après un événement. Merci monsieur de couper votre portable, c'est lui, il est très bien, c'est un garçon qui est très très bien. C'est coupé monsieur ? Voilà. C'est d'après un événement qui s'est passé en septembre 1936 et qui implique toute une part de réflexion et qui va pouvoir après alimenter notre deuxième personne, notre deuxième partie de l'émission. Alors comme moi je fais bien les choses lorsque Nicolas est prendrait là, je vais commencer par une lecture du Figaro.
J'aime beaucoup. C'est un
très bon. Voilà. Bon, alors, ce qu'on va quand même pardonner, c'est quand même le Figaro du 27 septembre 1936. Mm-hmm. Bon, quand même, hein, voilà. Il nous dit 9 pupilles s'échappent de la maison de protection. Des manifestants qui intervenaient ont dû être dispersés. Dans le courant de la soirée, 9 pupilles de la maison de protection des femmes se sont évadées de la maison allée à Boulogne-Billancourt. Après avoir ligoté la surveillante et la cuisinière. Il y a 9 personnes. Donc, elles s'évadent comme ça. Je continue pas parce que c'est illisible. Elles s'évadent, elles ligotent comme ça. Il y a tout un brouhaha et elles partent dans Paris. Alors là, j'en ai 9, après j'en ai 11, après j'en ai 22, mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est-à-dire, on est en 36. Et en 36, ça, c'est tout le livre d'Éric Rondepierre. Il y a un parfum de liberté, un parfum de révolte. Qui traîne comme ça, et hop, elle se tire. Et quand on dit maison maison, ça veut dire plein de choses. Hein. C'est aussi maison de redressement, maison de protection.
Pupille, c'est des orphelins de la guerre, pas si ancienne que ça.
Elles sont tous menées de menacées ou elles n'ont pas de syphilis déjà. Mmh. Elles sont prostituées, elles sont délinquantes, elles sont voleuses. Mais attention, ça va beaucoup t'intéresser. Elles sont là pour faire des bonnes ménagères.
Ben oui, faut pour essayer de les réinsérer, voilà, pour leur apprendre les bonnes choses.
Voilà. Et donc, ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas être facile comme monde. Et elles vont s'en aller en Paris. Il y en a une qui aurait crié « Vive le Front Populaire ». Puis d'autres qui ne crient rien, mais qu'en profitent pour se tirer. Bon. Et donc, le livre d'Éric Rondepierre baigne là-dedans. Il baigne là-dedans, il est divisé en trois parties. La première partie est consacrée à Marcel avec deux L, qui est une actrice, mais qui est en même temps une économe et en même temps la directrice d'une de ses maisons, c'est particulièrement de cette maison. Et le hasard veut que Marcel Génia, en même temps, elle joue à Paris depuis quelques mois où le sujet n'est pas très très loin. C'est une pièce de Liliane Heldman, qui a 25 ans, qui a été l'amie ou la femme d'Hachette Lamette. Voilà. Et elle a écrit là-bas à New York quelque chose qui fait scandale, où on traite de quasiment du même sujet. En même temps, on y rajoute l'homosexualité féminine. On est en 36, ça fout quand même pas mal. Petite parenthèse, Dashiell Hammett est un type très bien. Type très, très bien, qui oscille entre le whisky et des positions. Il a quand même pris position pour l'Espagne franquiste. Anti-franquiste, j'en veux. Voilà, pour les républicains espagnols. Hein, il a quand même résisté au macartisme aussi. Ouais, c'est quand même quelqu'un de bien. Voilà. Et donc, cette directrice, Marcel Génia, et ben oui, en même temps, ça lui tombe dessus. Ses braves pupilles sont parties dans la nature.
C'est pas elle qui a été ligotée.
Non, c'est bien dommage d'ailleurs. C'est bien. Mais par contre, elle va avoir le droit, puisqu'elle va continuer son spectacle. Les surréalistes vont reprendre du service de leurs plus belles heures. Ils vont venir foutre la pagaille. Ça, c'est la première partie qui est consacrée à Marcel Génia. La deuxième partie, alors c'est peut-être la plus importante pour moi et par rapport à notre sujet après, ça va concerner André Breton. Mmh. Alors, André Breton, qu'est-ce qui se passe ? On est en 36. Alors, le premier manifeste, c'est en 24. 24, c'est la révolte à l'état pur, c'est le surréalisme qui apparaît, là. En 33, il y a les premières manifestations sérieusement fascistes à Berlin. 36, c'est le Front populaire, la guerre d'Espagne. Et puis, il ne faut pas être grand clair pour comprendre que bientôt, ça va être 40 et tout ça. Donc, on parle de l'accélération de l'histoire, mais l'histoire galope. Et Breton est là. Ce n'est plus l'histoire surréaliste comme c'était à la plus grande période. Il y a eu des gens qui sont partis vers le stalinisme, des gens comme Aragon, et Le Havre va pas tarder à le faire non plus. Qu'est-ce qui se passe encore ? Il y a des gens comme Robert Desnos qui ont besoin de croûter, qui sont engagés dans le journalisme. Il fallait pas le faire. Ils ont été exclus, bien sûr. Ça. Donc c'est tout un monde comme ça, et Breton est là. Et son copain Benjamin Perret est parti se battre en Espagne. Ouais. Et lui est à Paris en train de noircir du papier. Il noircit un livre qui s'intitule « L'amour fou ». Et là, je vais pas me faire que des copains par rapport à un certain monde. Il écrit cette chose. Il écrit lui qui a été un dandy se promenant dans les rues de Paris, lui qui a pris position pour défendre les sœurs Papin, dont Genève a tiré les bonnes. Elles ont zigouillé leur etc. Il va brusquement se retrouver dans l'amour fou avec une position de cucu. Humaniste, tout simplement, il dit moi je suis là en train d'écrire je peux pas partir en Espagne parce que voilà, ma femme elle est partie, elle m'a laissé avec le gosse sur les bras, et donc je peux pas partir. Bon, j'ai rien contre Breton, j'ai rien contre le gosse, j'arrive à comprendre que ça doit être difficile.
C'est à cause de sa femme qu'il a pas pu devenir un héros en Espagne.
Allez. Je ne peux pas, alors même si c'est vrai, même si ça fait des années que je promène ça avec moi, même si c'est justifiable, voilà. Même si on peut l'expliquer, on ne le dit pas. On ne le dit pas. Celui qui a été un dandy se promenant, qu'on a appelé à la révolte à l'état pur, on ne peut pas dire une chose pareille. Donc il est aux prises avec toutes ces contradictions, plus d'autres politiques, parce qu'il s'aperçoit que ce surréalisme est complètement inopérant avec les événements de 36. Voilà. Et donc, en paraphrasant la phrase de Mayakovsky quand il dit que la barque de l'amour s'est brisée contre la vie commune, c'est exactement ça. La barque de la révolte s'est brisée contre l'histoire. Et ça va être le gros truc du surréalisme. Qu'est-ce qu'on fait ? Bientôt, il y en a qui vont se partir. Lui va partir aux États-Unis. D'autres vont rentrer dans la résistance, comme ça. Et après, ça va être innégociable. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a une correspondance, René Char, je m'écarte un petit peu, mais en plein dans le sujet. René Char, Camus a été résistant. Ouais. René Char, il correspond dans 50. C'est publié en folio d'ailleurs. C'est leur correspondance. Ils ont, j'ai parlé vulgairement, ils ont quand même les boules que Breton soit resté. Lui qui a donné tant de conseils, etc., sur la révolte. Il y a quelque chose qui ne passe pas.
Que le pape soit resté en place.
Voilà, il y a quelque chose qui passera jamais. Et donc, c'est tout le climat. C'est tout le climat de ce livre, Fugue opus 36. C'est tout le climat, comme ça. Alors que ça peut être simplement une anecdote, un fait divers, des jeunes filles qui sont poursuivies, les filles qui les poursuivent, etc. Ouais. Hein, etc. Mais ça implique tout ça. Ça implique une impuissance de ce qu'a été le surréalisme, qui a été peut-être la plus grande éclosion de révolte. Et on va en troisième partie. De ce livre, Éric Rondepierre dresse le portrait d'une fugueuse qui s'appelle Germaine, qui n'a pas fait grand chose de mal, qui a vu que tout le monde se taillait, elle s'est taillée, et c'est très drôle parce que il a fait mourir dans sa narration, il l'a fait mourir en... Alors, est-ce que c'est vrai? Alors, tout ça se passe entre fiction et réalité.
Oui. Hein,
ça se passe que la première personne, Marcel Génial, l'économe directrice, il la traite impersonnellement, en son nom, mais pour ce qui est de Breton, il l'appelle André. D'autres l'ont appelé Dédé, alors c'est comme ça, il peut le faire. Et pour ce qui est du dernier personnage, Germaine, au contraire, on voit qu'il y a une forme de tendresse. Mmh. Et là, il l'a fait mourir. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai, j'ai pas pu vérifier, en 48. C'est seulement en 48 qu'elle apprend la mort de Germaine par inanition à l'asile psychiatrique pour femmes de Maison-Blanche à Neuilly-sur-Mer. Bon, ça veut dire, et en même temps, dans ce dernier chapitre, il suit cette femme. De façon imaginaire, bien sûr. Ouais. Il la remet dans les boulevards Bonne Nouvelle, où Breton va se promène avec Nadja, etc. Il se trouve que par humour noir, c'est vraiment de l'humour noir, très noir, on sait maintenant qu'entre 28 et 41, Nadja a fini à passer d'asile en asile. Mm-hmm. Elle va finir en 41 dans un asile près de la frontière franco-belge. Tu imagines ce que c'était que l'occupation, pendant l'occupation, un asile de fous.
Ils étaient très très maltraités, voire laissés sans même de quoi manger, sans soins élémentaires.
C'est ça. Ouais. Donc c'est une mort, c'est une femme que le beau dandy a suivi, a dragué dans Paris pour en faire ce livre que tout le monde connaît, Nadja, a une fin qui est misérable, etc.
Ouais.
Moi, j'ai pas du tout envie de moraliser, voilà. Donc c'est un très beau livre. Tu le dis comme ça, je crois qu'il doit faire à peu près une petite centaine de pages, mais ça implique tout un tas de questionnements, aussi bien idéologiques, même affectifs. Voilà. Ouais. Juste simplement.
Et les personnages ne se croisent pas. Ils s'effleurent en quelque sorte, sans entrer en contact. En
Breton, c'est aussi ça le phénomène du surréalisme. On s'aperçoit qu'ils sont loin de tout ça. Mmh. Eux qui ont voulu abattre les tours d'ivoire, il est quand même dans sa tour d'ivoire. Très loin du phénomène social, voilà, ça c'est bien rendu par Éric Rondepierre. Je vais simplement lire deux petites choses. Éric Rondepierre sait de quoi il parle. Après, je lui ferai un reproche, alors je peux me permettre de le dire ça. Alors, il parle de Breton, là. Il ne pouvait plus se contenter de violences symboliques, d'appels à l'insurrection sur le papier, de quelques scandales littéraires avec cassage de gueule à main nue. Il devait devoir prouver que son combat s'inscrivait dans le réel. C'est le moment de participer, de concevoir cette étoile qui brillerait au firmament de l'histoire, de lutter efficacement contre la servitude de la condition humaine impose au plus grand nombre, de sortir de ce cri inaudible, sans caisse de résonance, dans lequel il percevait confusément qu'il était enfermé avec ses camarades. Mais comment s'y prendre? Du temps que les surréalistes avaient raison, officialise la séparation avec le Parti communiste en 1935. La rupture récente avec Contre-attaque et Georges Bataille en 1936 achève de l'isoler. Comment jouer un rôle dans un monde où aucun mouvement d'ampleur n'est prêt à épouser les valeurs qu'il défend? Il sent l'impasse, il voit le mouvement entrer dans une période difficile dont peut-être il ne se remettra jamais. Les scissions politiques, s'ajoutant aux tensions personnelles, auraient fini par avoir raison de la part vivante du mouvement. Le surréalisme doit être dépassé. André est prêt à proclamer sa mort, mais pas tout seul. Il n'a pas de plan, de stratégie. Il vit au jour le jour en espérant se sortir du marasme et en abandonnant rien de ses exigences. La tyrannie de son idéal lui laisse pourtant peu de marge. Donc le sujet est très très bien cerné. Il se trouve que dans toute cette histoire... Donc elles vont se faire récupérer, hein, les pauvres filles,
récupérer. L'une après l'autre.
Voilà. Est-ce que tu connais le film Zéro de conduite de Jean Vigo?
Oui,
magnifique, toi qui manie la caméra, c'est un film magnifique. Et ça, c'est un des regrets que j'ai eu par rapport à ce livre d'Éric Rondepierre, Fugue, opus 36, qu'il n'y a pas d'allusion à cette révolte. On est en 33, ça veut dire qu'on revient encore, la révolte est là, elle est dans l'air.
Ouais. Oui, oui, c'est contemporain de Zéro de Conduite.
Zéro de Conduite, ouais, c'est
qui est réalisé à ce moment-là.
33, 33, Zéro de Conduite, 33, c'est 33. Moi, je conseille aussi de voir la Talente. Je ne sais pas si c'est le film de Jean Vigo, c'est une merveille, des merveilles, des merveilles. Ouais. Et donc, il rencontre l'impuissance de Breton, il raconte tout ça, c'est très, très bien fait. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il fait allusion à quelqu'un qui a participé à tout ce mouvement, c'est Léo Mallet. Je pense que tu as l'air humain. Et c'est très drôle parce qu'il y a une omission de taille dans ce livre. J'en profite pour le dire sur Radio Libertaire, 89.4, dans Honte de Choc. Léo Mallet, c'est un Montpelliérain. Milieu pauvre, il va monter à Paris, il va aller à Montmartre, il va faire le chansonnier noir, il va faire différents boulots pour gagner sa vie, dont un, à un moment donné, il va livrer un bidet. Il livre un bidet place Clichy. Il y a la première librairie José Corti. D'accord. Il passe devant la librairie avec son bidet, donc il est tout jeune, tu l'imagines. Et qu'est-ce qu'il voit en vitrine ? Il voit la révolution surréaliste.
Ouais.
Donc, hop, il va prendre...
avec un bidet en couverture.
Quasiment. Il va prendre Fête et Cause, il va les rencontrer, il va faire partir des scandales, il va publier des poèmes surréalistes qui sont absolument magnifiques. Mmh. Il y a Le frère de la snère, il y a Urge à la vie, il y a J'arbre comme cadavre, qui veut dire je bande comme un cerf. Enfin, J'arbre comme cadavre, ça veut dire je bande comme un cerf, je te l'apprends quand même. Puis après, il va donner dans le roman noir, dans le roman noir alimentaire, il faut bien bouffer aussi, et dans les Nestor Burma, que tu dois connaître. Et déjà, dans les Nestor Burma, il va faire la trilogie noire aussi, chez Le Rick Lospec, qui est absolument magnifique. Et dans les Nestor Burma, tu as des phrases louches, comme ça. Tu as en particulier une phrase louche qui dit « Quand il y a du rasif dans l'air, l'arabe n'est pas loin.
Ouais. »
Ça fait c'est quand même lourd à porter.
Ça annonce un peu le Léo Mallet qui va mal tourner.
Voilà. Et c'est pas dit dans le livre. Il le dit pas. Je ne sais pas pourquoi il y a pas une petite note en bas de page. Parce que moi, Mallet, je l'ai rencontré, effectivement. Petit personnage amer. Franchouillard et tenant des propos et ouvertement racistes et d'extrême droite. Ce livre est très très beau, Fugue opus 36, Eric Rond de Pierre chez Marest. Ça raconte un événement qui a existé et qui est quand même significatif de l'époque. Ça raconte comment Breton quelque part marque son impuissance, et je réitère avec cette chose de ne pas pouvoir aller en Espagne parce qu'à cause de sa gosse, c'est peut-être vrai, mais Ça se dit pas. Et ça tombe très bien, c'est très beau, etc. Mais pourquoi cet oubli sur Léo Mallet ? Je n'en sais rien. Et donc, on va finir là-dessus. C'est simplement le dernier personnage, celle qu'on va retrouver en 48 dans un asile. Il la tutoie. Il lui dit « Dehors, tu es toujours dehors. Mes yeux fermés te voient. Tu es debout, immobile, habillé avec la tenue de l'école ménagère, le corsage en toile bleue, la jupe de pilou, à carreaux gris marron. Quelquefois tu bouges, tu es là comme une épiphanie traînante qui prend son temps, qui s'imprime en moi. Je n'ai toujours pas vu comme ça, à la dérobée, entre deux portes et deux lits, très fragile, presque menacée. Même quand je marchais dans les rues du 15e arrondissement, je te voyais, je dus me forcer un peu pour te quitter et ne plus te voir, soucieuse de bien me signifier ton absence, tu ne répondais pas. Par une sorte de mouvement naturel, je revenais vers toi, vers ton image, ta passion, ton geste, je voyais ton geste. Avant de basculer dans la nuit, je sentais ta présence derrière les vitres comme celle d'un oiseau ou d'un papillon. Il me semblait à cet instant précis que je te retrouverais plus tard, n'importe où, quelque part. Et c'était vrai. C'est magnifique, c'est très beau. Donc je conseille ce livre chez Marest, édition Marest, Fugue opus 36, Éric Grandpierre, et voilà.
Il y a quelque chose de l'ordre des présences, tu sais, presque un peu fantomatiques, oui. dont parle Benjamin.
Bien sûr, en plein dedans, c'est-à-dire, c'est la fameuse phrase, bon, là je vais citer Breton, hein, la présence et l'absence qui sont de connivence, on joue avec ça. Voilà. Donc il est parti à la recherche de ces personnages-là, il est vraiment habité par ces personnages-là. C'est un beau livre.
Très bien.
The very thought of you and and I forget to do. There are very ordinary things that everyone ought to do. I am living in a kind of daydream. I'm a though it may seem to me that everything, the mere idea of you, the longing here for you, you will never know how slow the moments go until I am nearer to you. I see your face in every flower, your eyes in stars. It's just a thought of you, the very thought of you, my
tout ça, ce sera bientôt pour un colloque. Si on retrouve l'adresse, tu pourras peut-être intervenir, Nicolas. D'accord. Oui, tu me disais hors antenne qu'on a conclu que ce n'est pas avec des bons sentiments qu'on faisait la révolution. Ce n'est pas en s'excusant, soit on se tait quand il y a quelque chose qui ne va pas ou pas. Hein. Mm. Surtout qu'en 36, il y a un personnage qui s'appelle Colette Peignot, donc Laure, l'ami de bataille, qui est complètement subversive. Mm. Qui prend des risques totaux. Mm. Voilà, donc il y a quelque chose qui est très choquant. Bon, donc il y a ce colloque, tu vas intervenir.
Oui.
Élisée Reclus
et la peinture.
Et la peinture. Ouais. Élisée Reclus, il meurt en 1905.
Élisée Reclus, ouais, donc il est né en 1930 et meurt en 1905. En
1830.
Qu'est-ce que je dis? J'ai dit 1930? Bon, j'ai tout. Bon, alors je recommence. Heureusement, Monique est attentive. Donc, il est né en 1830 et il décède en 1905, 4 juillet 1905 en Belgique, à Tourroute.
Donc, il est géographe. Non, il faut le dire parce que.
Géographe. Donc, géographe et anarchiste, pour aller vite. Donc, c'est un géographe important parce que c'est un de ceux qui va mettre en place la géographie moderne, c'est-à-dire la sortir des cartes de la description aride et pour y faire rentrer, on peut dire, la sociologie, l'histoire, l'anthropologie, enfin voilà, tout un tas d'autres disciplines qui vont nourrir ce regard sur la Terre. Un inventeur de la géographie sociale.
Je connais bien sûr beaucoup moins bien de toi, mais le peu que je connais, c'est qu'il soigne énormément son écriture.
C'est un écrivain. Voilà. C'est assurément.
Je ne contente pas de faire des topographies ou des choses comme ça, mais là, petite parenthèse, tu sais que c'est aussi grâce à Gilles Deleuze que la géographie est revenue à l'ordre du jour. Hein. Quelque part, il dit que l'histoire, bon, tout le monde parle de l'histoire, mais la géographie a un intérêt capital, quoi.
C'est clair.
Mais toi, par contre, tu dis dans ta présentation, là, tu pousses un cri d'énervement contre ceux qui veulent voir dans Reclus un précurseur de l'écologie adepte du végétarisme.
Non, c'est-à-dire que Reclus, c'est une pensée qui est très vaste. C'est un révolutionnaire.
Hein, il a fait la Commune.
Il participe à la Commune de Paris. C'est un membre de l'AIT dès 1864. Donc voilà, il est aux côtés de tous les premiers révolutionnaires de cette tendance-là. Commune de Paris, il est emprisonné, exilé, ainsi de suite. Il est proche. Malatesta le décrit comme un des trois personnes importantes, les plus importantes de l'anarchie, Bakounine, Kropotkine et Reclus, donc ça veut dire qu'il est quand même au centre des choses. Peut-être qu'on pense moins à lui dans cette dimension-là, parce qu'il a écrit assez peu de textes strictement théoriques. Il en a écrit, ils sont plutôt des petits opuscules, des choses assez courtes, mais en fait, sa géographie, et notamment son dernier grand opus qui s'appelle L'Homme et la Terre, qui est publié à partir de 1905, mais entièrement rédigé par lui, mais dont la publication va se poursuivre après son décès, en fait, contient énormément de réflexions qui sont tout à fait politiques et pertinentes, et qui sont souvent assez éclairantes sur aujourd'hui, enfin qui gardent souvent une pertinence assez forte.
On le retrouve avec tous les communards qui se sont réfugiés en Suisse, c'est ça ? Hein, ça, c'est très, je crois que c'est très important, ça. Ce rendez-vous, je crois que Bakounine va y aller aussi en Suisse. Hein.
Alors Bakounine, Bakounine a un peu circulé entre Italie et Suisse, mais effectivement, si Reclus et Bakounine se connaissaient déjà, c'est plutôt à partir de cette période qu'ils vont beaucoup plus se fréquenter et travailler ensemble. Je sais pas exactement, mais en tout cas, voilà, ils sont assez proches. Et Reclus sera un des trois exécuteurs testamentaires de Bakounine. Donc une partie des textes. Publié de façon posthume de Bakounine, c'est aussi grâce à Reclus et aux deux autres qu'on le doit, ce qui est quand même un rôle de confiance que de nommer ce genre de personnes pour assurer la publication des textes.
Donc il y a Proudhon le premier, Bakounine, Kropotkine, on va faire cet ordre-là. Hein. J'ai envie de dire, Proudhon c'est le français.
Ouais.
Non, mais moi, ça me paraît très important. C'est le français. Il y a un côté terroir chez Proudhon, moi, qui me gêne. Côté familial, terroir, on sent l'ancien monde chez Proudhon.
Oui, peut-être. Moi, je ne connais pas assez et je dois dire que je le découvre, en fait, petit à petit. Alors, Proudhon... Et un petit peu mis à l'écart, parce qu'il a une espèce de saut d'infamie, il était très misogyne, excessivement misogyne, même, on va dire. Donc, voilà, on a à le mettre à l'écart, surtout aujourd'hui.
Il y a un côté pater familia.
Oui, puis sur les femmes, tout
c'est
ça.
C'est ça, c'est ça, je veux dire, c'est ça.
Et en même temps, en relisant les textes un peu par thème, en allant piocher des choses, moi je découvre des choses qui sont assez passionnantes, et on s'aperçoit qu'il a réfléchi et pensé à beaucoup, beaucoup de choses. Et donc il est... c'est un terreau, quoi, dans lequel beaucoup vont chercher, et Reclus se revendique beaucoup de Proudhon.
Donc Proudhon, lui, rentre en contact avec Baudelaire.
Oui.
Ce qui est complètement incompatible.
C'est pas les mêmes, quoi.
Non, mais c'est incompatible.
C'est incompatible.
Sur un terme, pourquoi je te dis ça ? Parce que dans les trois cas, l'art se doit d'être utile.
Oui.
Voilà. Et Baudelaire, est-ce que tu sais que le mot le plus horrible de la langue française pour Baudelaire,
c'est
le mot utile.
Utile.
Ouais. Il supporte pas l'utilité. Il ne supporte pas la nature. C'est un Gandhi. La nature, ça, il a horreur de ça. Donc il rentre en contact et c'est complètement antinomiste.
Oui, mais alors en même temps, je pense que c'est motivé parce qu'il y a y a quelque chose de subversif chez Baudelaire, forcément, mais en même temps, les deux ne parlent pas de la même chose, donc ça donne... Proudhon, visiblement, est très curieux et a des correspondances avec beaucoup de gens, et donc il prend contact, il s'intéresse, il veut savoir, il veut comprendre. C'est quand même un autodidacte, Proudhon, donc c'est pas du tout quelqu'un qui a un bagage comme ça, mais il le construit... au fil de sa vie, et je pense que cet échange, il y a quelques lettres, hein, c'est pas beaucoup, cet échange avec Proudhon, avec Baudelaire, pardon, il est de cet endroit-là, quoi, c'est-à-dire se comprendre, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble.
Tout à l'heure, on parle de Breton et d'Aragon. Ces deux, au départ, ce sont des dandys. On a retrouvé des textes, des lettres, je ne sais pas quoi. Tu vas voir où je veux en venir. Ils se promènent dans une manifestation au début de leur aventure. Et là, il y a des pauvres mecs avec des pancartes qui ont des revendications du pain, du pain, du pain. Et nos deux aventuriers disent, mais qu'est-ce que c'est que ces pauvres mecs qui veulent manger, quoi.
C'est Marie-Antoinette, ça, un peu.
qui veulent manger, ça veut dire que c'est vraiment... C'est vil. Mais Baudelaire, c'est ça, c'est le dandy qui ne peut pas avoir accès au social. Alors que tout le jugement de Proudhon, et des deux autres aussi, l'art est branché entièrement sur le social.
L'art doit avoir une fonction, l'art doit servir, alors, effectivement, peut-être aussi une dimension un peu d'éducation, mais en tout cas doit avoir un rôle et une fonction dans la révolution, dans le processus révolutionnaire, ce qui est effectivement tout à fait à l'opposé d'un Baudelaire qui est plutôt... tenant de l'art pour l'art, quoi. Issu en ça du romantisme, je pense.
Donc, il y a cette volonté, il faut que ça serve. C'est ça, j'ai bien compris, c'est ça. Mais en même temps, il y a des dangers là-dedans. Il y a des très grands dangers, parce qu'il y a quelqu'un, je ne sais plus qui, je vais le trouver, là. Ah voilà, c'est ça, c'est Bakounine, là, qui dit « Le paysan ne rebute pas François Millet, où est le François Millet de l'ouvrier ?» Tu vois ce que c'est,
c'est Jean Dolan.
Oui.
Qui est un critique un peu plus tardif, dernier quart, enfin, je ne sais plus quand est-ce qu'il écrit ça, mais dernière moitié ou dernier quart d'accord. du 19e siècle. Et justement, à mon avis, alors je n'ai pas la source exacte d'où s'est inspiré Jean Dolan, mais à mon avis, ça fait partie des critiques d'art. Il était proche des milieux anarchistes sans être dedans, un peu indépendant, mais... Alors, par exemple, on connaît le salon des Goncourt, qui était plutôt très bourgeois, tout ça. Dolan avait un salon qui était ce qu'on appelait un salon. Il recevait le dimanche et c'était quasiment à l'opposé géographiquement, un petit peu au-dessus de l'actuel parc de Belleville. Donc c'est la Villa Autose. Donc il recevait.
Ça existe toujours ou pas?
Alors ça a été détruit, mais c'est aussi là où ont vécu Alechinski Christiane Rochefort.
D'accord.
Voilà, c'est assez rigolo. Mais voilà, il reçoit tout un tas d'artistes, pas forcément des révolutionnaires, hein, parce qu'il y a Rodin, Carrière, enfin des gens comme ça, qui sont des gens en place et connus, mais c'est une espèce de salon alternatif comme ça. Et Jean Dolan, justement, a cette influence quand même comme critique et va inciter les artistes à se tourner vers les sujets sociaux et de représentation, c'est-à-dire les ouvriers... C'est-à-dire pas juste le côté millet, effectivement, des scènes un peu élégiaques ou convenues du paysan.
En fin de compte, c'est toutes les valeurs chrétiennes du mouvement ouvrier.
Je sais pas si c'est porté par une idée de religion. Ouais. Je crois pas que ce soit des gens très religieux, mais je crois
qu'il y a un phénomène de devoir, il y a un phénomène de famille, il y a un phénomène de...
Non. Je crois que c'est surtout l'idée de donner une représentation de ces activités-là qui, au cours du 19e siècle, deviennent quand même très très importantes. Les villes grandissent à des vitesses assez colossales. Et puis l'ouvrier devient un personnage très très important, mais peu représenté. Pour revenir à Reclus, en faisant un parallèle avec la géographie, Reclus est un de ceux qui va s'intéresser à la ville. Et évidemment au monde ouvrier, mais à ce qui se passe dans la ville. Alors qu'il y a des géographes de son époque qui ne vont pas savoir comment traiter la ville. Et donc ils vont s'intéresser aux régions, aux provinces, enfin à des choses comme ça. Mais finalement, la ville, c'est un milieu pollué, malsain.
Il y a peut-être... des écrits de Reclus par rapport à Haussmann, aux travaux d'Haussmann ou pas?
Haussmann, Je ne sais pas précisément, sur la ville, il y a pas mal de textes sur la ville qui sont intéressants, parce que il fait très bien le distinguo entre les dangers de la ville qui, à l'époque, peut être assez malsaine. Enfin, je veux dire, les villes sont très polluées, les conditions sanitaires sont très mauvaises. Mais en même temps, pour lui, c'est aussi le lieu de la liberté, le lieu où on peut rencontrer, on peut s'éduquer, on peut rencontrer l'autre. Où il y a la diversité, on peut aussi se s'allier. Et donc, en ça, les villes sont aussi très importantes.
Alors, moi, ce qui m'a... J'ai annoté aussi. Ce qui m'a choqué d'un bout à l'autre, sur les trois personnages, nos trois personnages, dont Reclus aussi, et alors, c'est encore pire, si tu me dis que c'était un homme qui s'est penché sur la ville, il y a une forme de cloisonnement. Je veux dire qu'ils sont tous dans leur chemin, alors qu'il y a plein de choses qui se passent. Mmh. Alfred Jarry, c'est la même époque. Rimbaud, c'est la même époque. Il y a toute une littérature sur laquelle s'inspirent les surréalistes. Bah, elle est là. Elle est là.
Ah, mais moi, je me suis aperçu de ça avec la peinture, parce que j'ai fait un film sur un peintre.
C'est là que je voulais en arriver. Je ne te demande pas ton avis, c'est là que je voulais en arriver. on avait fait une émission ensemble.
Oui,
on avait je t'avais posé la question, mais qu'est-ce qu'il voit, lui qui a fait l'académie, qui est quand même peintre, qu'est-ce qu'il voit autour de lui?
C'est
Gaston Prunier, hein?
Oui, c'est ça, Gaston Prunier. Je pense qu'il voit tout, parce qu'en fait, il expose, en tout cas pour ce peintre Gaston Prunier, donc on lit en deux mots, né en 1863, mort en 1927.
D'accord, il a, par exemple, il a pas les connaissances de l'impressionnisme.
Ah si!
Non, mais dans sa peinture, il y a aucun...
Alors lui il a un tout petit texte où il en parle, mais pour lui, c'est déjà la génération d'avant, et lui, ce qu'il veut faire, c'est autre chose.
D'accord.
Ce qui sera le cas de tous les peintres de la génération de Prunier, c'est-à-dire la génération d'après les impressionnistes, comme les néo-impressionnistes, les pointillistes et même les symbolistes, c'est-à-dire, de toute façon, ok, l'impressionniste, ils ont débroussaillé le terrain, ça a été une révolution d'une certaine manière, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est autre chose. Donc ça, c'est important de voir ça. Mais là où je voulais en venir, c'est que des gens de cette période-là, comme Prunier, qui va continuer à peindre de façon assez figurative, enfin voilà, il y a des évolutions, mais en fait, en même temps, il y a le début du cubisme.
Bah c'est là, je vais en arriver là.
Et là, tu te dis, les mecs, comment ça se passe, quoi?
Parce que on retrouve Kupka. Mm-hmm. Kupka vient de très loin, je n'ai pas la date, mais il vient de très loin.
Il est tchèque, il est né en 1870.
Il meurt très vieux,
après la Seconde Guerre mondiale.
Oui, il meurt très très vieux, 48, très vieux. Bardi, c'est une force de nature. Hein. Mm-hmm. J'ai connu quelqu'un qui a été un de ses proches, qui disait qu'il se tapait du rhum, des grands verres de rhum, comme ça, juste trois mois avant de mourir. Bon, bref, passons, etc. Mais c'est quelqu'un qui vient d'une forme de figurative et qui finit dans l'abstraction. C'est-à-dire qu'il y a un cheminement. Voilà, il y a un cheminement.
Ben là, c'est le cas de quelqu'un dont le style va fortement évoluer. Alors, je pense qu'il reçoit une formation classique s'agissant de Kupka, et on va le croiser, évidemment, dans notre cas précis, parce qu'il va être un des illustrateurs des travaux de Reclus, donc notamment l'illustrateur le plus important de L'Homme et la Terre, et son style de dessin très figuratif et vraiment donne aussi une identité visuelle très importante à L'Homme et la Terre, et en fait un texte, un ouvrage en six volumes qui, pour moi, reste...
Tu as idée comment ils se sont rencontrés, Kupka?
On n'a pas trouvé quelque chose de précis, mais c'est-à-dire que Kupka, comme un certain nombre de ces dessinateurs comme Steinlen, Josso, fournit des dessins pour l'Assiette au beurre, pour tous ces journaux satiriques proches ou faisant partie du mouvement anarchiste à l'époque. Donc son dessin est connu. Après, qui les a mis en relation, je ne sais pas exactement, mais Kupka fait dans cette période-là, donc dans les fin 1800, début 1900, fournit des séries pour l'Assiette au beurre, des choses très très expressives. Donc il est connu quand même comme quelqu'un qui est de ce milieu révolutionnaire.
Qu'est-ce qui t'a séduit avec Gaston Prunier? Est-ce que c'est l'œuvre? Attends, est-ce que c'est l'œuvre par la même, ou de pouvoir toi investir? Bah, son atelier, rencontrer... Qu'est-ce qui t'a le plus séduit?
Ben, je dirais que au départ, il y a une recherche et puis on ouvre une boîte et on trouve des choses. Alors, pour le dire aux auditeurs, il se trouve que j'ai, suite à différentes circonstances et contacts, j'étais amené à rencontrer la personne qui, chez elle, conservait le fond d'atelier de ce Gaston Prunier. Et donc après, au fil du temps, j'étais amené à pouvoir éplucher, disséquer, étudier ce fond d'atelier. Donc il y a toujours quelque chose d'assez magique quand même, à pouvoir fouiller un endroit où on n'est pas invité, sans indiscrétion particulière, parce que le gars, il n'est plus là. Mais c'est tout de même ça assez fascinant. Et après, c'est poser la question de qu'est-ce que je fais avec ça ? Puisque c'est comme si on m'avait confié un secret, quoi. Et qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que c'est intéressant comme peinture ? Alors, j'ai un peu montré pour me faire un peu aider ou conseiller. Et puis, il y a aussi toute la dimension de peinture sociale, justement, qui est très présente chez Prunier dans ses paysages urbains. Et ça m'a intéressé, vraiment. Donc voilà, il y a un peu
Moi, je te propose une proposition honnête. Hein, pendant que tu vas aller voir l'adresse du colloque, comme ça on écoute un peu de musique et on continue avec Reclus, hein, et la peinture.
Avec grand plaisir.
D'accord.
Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse, non, ce n'est pas la samba que je j'en connais que la chanson incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui, pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. On m'a dit qu'elle venait de Bahia, qu'elle doit son rythme et sa poésie à des siècles de danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Yeah. dans son cœur.
Quelle jolie voix, Ducrot, quelle jolie voix au 01 43 71 89 40. Alors nous respirons sur Radio Libertaire parce que maintenant Nicolas Leprendre sait où il va, de quoi il va parler, j'en sais rien, mais il sait quand et où il va parler, combien et où.
Alors, voilà, donc ce sera un colloque qui s'intitule « Art et anarchie », donc c'est organisé par le groupe Commune de Paris de la Fédération anarchiste. Ça se tiendra, je l'ai dit, le 14 juin, toute la journée, ça devrait commencer vers 10h du matin, dans un lieu qui s'appelle l'AERI, c'est 57 rue Étienne Marcel, métro Croix de Chavaux à Montreuil. Et je donne une vague idée du programme. Bon, voilà, il y a plein de choses, hein, mais il y a bien une douzaine de communications. Mais je peux citer, par exemple, Raphaël Romney qui interviendra sur la littérature prolétarienne. On l'entend régulièrement sur les ondes de Radio Libertaire. On parlera, je ne sais plus qui, mais quelqu'un parlera d'Armand Gatti. Il y aura une intervention sur le théâtre des opprimés. Hélène Hernandez parlera de la peintre Nelly Trumel. Et je sais qu'il y aura aussi une intervention sur un chanteur qui s'appelait sans doute Jean Aubel.
Bah, il doit être encore vivant, si, si.
J'ai dit une bêtise.
Oui, parce que...
Ah oui, t'as dit une grosse bêtise. Jean est le chanteur du groupe Les Chanteurs Livreurs, donc il est tout à fait vivant, en bonne santé, et il sera là et on sera très 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 heureux de le voir. Tant que j'ai le micro, une toute petite info supplémentaire, Radio Libertaire sera en direct depuis ce colloque et mettra en direct, vous pourrez tout écouter depuis chez vous si vous êtes trop loin de Montreuil pour pouvoir y venir.
C'est comme ça qu'on squatte une émission, c'est monsieur.
Une forme de prise de pouvoir.
Moi, j'ai commencé par le Figaro, je vous ferai remarquer, je suis un garçon honnête. Donc, deuxième remarque, tout à l'heure, je parlais de...
Merci Monique, en tout cas, pour les infos.
De Fugue Opus 36, audition Marès, Éric Rondepierre, et je vous disais qu'il n'était pas là, je regrettais parce qu'il était mort. Hein, généralement, quand on chante, on est vivant, monsieur. On essaye, du moins.
Je m'engage à livrer un menhir.
D'accord. Alors maintenant, comme on est bien parti, je vais faire un peu de provocation là. Effectivement, je le dis dans vos notes là. En fin de compte, le contenu avant le contenant, la pensée avant la réalisation. Est-ce que tu crois vraiment que la peinture doit se penser, ou alors c'est une matière qu'on jette, quoi. Sinon, on fait de la littérature.
Ça, c'est Proudhon, là.
Oui, je te dis, voilà, oui,
c'est... Ah ben c'est effectivement une vision bien datée, bien 19e-iste et bien fonctionnaliste. Moi, je suis convaincu du contraire, mais effectivement, les leçons, puisque tu disais que la présentation du livre, au départ, était un peu à l'opposé, mais de fait, de parler de surréalisme dans cette conception de l'art, effectivement, les propositions qui vont être celles du mouvement Dada et puis des surréalistes ensuite, et on pourrait en citer bien d'autres, vont être complètement à l'opposé de ça, puisqu'ils vont quasiment privilégier la révolution par la forme, le travail, la provocation par la forme, plutôt que par le fond.
Mais Bakounine est beaucoup plus clair, hein. La vie est toute fugitive et passagère, c'est pas mal du tout, hein. Mais aussi toute palpitante de réalité et d'individualité, de sensibilité, de souffrance, de joie, d'aspiration, de besoin et de passion.
On se sent un peu plus à l'aise. Bien sûr. On se sent un peu moins contraint et pas en train de faire des devoirs ou des sujets imposés, quoi.
Pour revenir en moralité, il y a une sorte de carcan moral chez Proudhon. Depuis des années que j'ai commencé, un carcan moral qui n'y a pas chez Bakounine. Ouais. Et Kropotkine, je connais beaucoup moins. Voilà.
Mais alors, là, je ne sais plus, je ne les ai pas tous cités, mais j'avais recherché un petit peu chez Kropotkine. On sent aussi cette dimension utilitariste, hein, en tout cas. Mais effectivement, Bakounine a un côté, quand il parle de la vie, en fait, de donner raison à la vie, il y a quelque chose d'assez puissant et on sent que... Je crois que c'est quelqu'un de très complexe et de tiraillé par plein de directions et qui évolue beaucoup aussi.
Il y a des réactions, des écrits de reclus sur les mouvements un peu autres, fin 19e.
Artistique, tu veux dire?
Oui, ou intellectuel.
Pas spécifiquement. Alors, au travers de sa correspondance, on voit qu'il s'intéresse à certaines choses. Il est proche et il est en contact avec un certain nombre d'artistes. Alors par exemple, on peut citer Pissarro, dont il est assez proche. Il fait même un séjour aux Pays-Bas, sa compagnie. Et il va être aussi en contact avec un certain nombre d'artistes, plus de la génération suivante. Voilà, pointilliste, enfin des gens comme ça. Sans les fréquenter beaucoup, il y a un peintre belge dont il sera assez proche, qui s'appelle Théo van Rijsselberg, qui fera un portrait de lui. Mais pour le coup, il y a une évolution dans la conscience politique des peintres, enfin de certains peintres. Entre la période, je dirais, des impressionnistes et celle plus de la fin du 19e siècle, le dernier quart, c'est que nombre de ces peintres vont se revendiquer de l'anarchie. On peut citer Maximilien Luce, et il y a une exposition Maximilien Luce actuellement au musée du Vieux Montmartre. Mais on peut citer aussi des gens comme Stein Lane.
Ça, c'est beau, Stein Lane.
Stein Lane, magnifique.
Oui. Là, je dis que c'est beau parce qu'il y a un sens de l'esthétisme chez Stein, très poussé.
Ouais.
Non, tu es d'accord avec moi ou pas?
Oui,
bien sûr. Voilà.
Ah ouais, moi j'aime beaucoup.
Oui, il y a un sens de l'esthétisme. Ouais. C'est quoi les... Alors maintenant, tu vas dû faire un peu de pédagogie puisque tu te réclames du social, Nicolas Leprendre. C'est quoi les faux Brabançons?
Ah, les faux Brabançons, c'est une génération de peintres de cette même période, dernier quart, 19e, et même ça déborde sur le 20e, mais côté Belgique, côté Wallonie, non, de Belgique, puisqu'il y a des Wallons et des Flamands, donc des peintres qu'on ne connaît pas trop ici, mais qui vont être un peu... Est-ce que c'est des révolutionnaires, mais qui je pourrais citer Louis Thévenet, un garçon qui s'appelle Evenepoel, ou comment il s'appelle? Voilà, il y a quelques peintres comme ça qui sont des peintres intéressants. C'est pas des grands maîtres, c'est pas des grands noms, mais Ensor est pas très loin de cette équipe-là. Et il y a une galerie en fait qui va exposer pendant tout le début des années 1900 et même un peu après tous ces peintres à Bruxelles, peintres souvent un peu misérables, enfin voilà, sujet à des difficultés, et qui va exposer Ensor aussi, qui s'appelle la galerie Georges Giroux. Pardon. Et moi je m'y suis intéressé parce qu'il y a un garçon qui va être le directeur, le gérant un peu de cette galerie Georges Giroux, qui s'appelle Jules Elslander, qui va écrire aussi des choses assez provocantes, rage charnelle, qui va lui valoir quelques procès à lui et à son éditeur, et lui aussi va être proche des milieux anarchistes, et Reclus va le croiser, enfin ils vont se fréquenter un petit peu. Donc voilà, c'est des milieux qui sont proches, sans forcément se battre tout à fait de la même manière.
Quoi. Pour venir à Baudelaire vite fait, et après je vais en venir, il écrit des pages et des pages sur Delacroix. Et je vois très mal Proudhon et nos trois amis, là, trouver un intérêt à Delacroix. Il y a quelque chose d'immoral, de chatoyant, de... Voilà, ça aide... Ah. Et deuxièmement, il y a quelqu'un que tu n'as pas cité, quand même, c'est Courbet. Courbet, oui. Qui politiquement et qui chardellement, c'est quelque chose, quelqu'un que... Voilà.
Alors Courbet, effectivement, Reclus va connaître Courbet, va le fréquenter dans le...
Ah, quand même, monsieur...
Dans les exilés suisses, effectivement. J'allais l'oublier. Courbet, c'est intéressant... Enfin... C'est assez drôle parce qu'il est... Je trouve qu'il est un peu à la frontière parce que on reste dans la figuration. Donc de ce point de vue, il y a un certain classicisme, et il y a des choses dans les formes, dans la manière dont il représente les sujets qui emmènent ailleurs, quoi, et qui est en rupture un peu. Et puis lui comme personnage, c'est aussi un type assez chatoyant. et subversif.
Les gens qui ont écrit, oui, qui ont écrit sur Courbet, les plus lucides, dit qu'il était proche de Picasso dans le sens où il savait se vendre. Ouais. Il savait se vendre, il savait se mettre en avant et en même temps de jouer avec toute une idéologie qui est quand même sulfureuse. Hein, et avec des toiles qui sont complètement en dehors de la moralité. Ouais. Voilà. Bien sûr, c'est bien pour un Baudelaire, c'est peut-être pas bien pour ce qui va suivre.
Alors, Reclus, pour le coup, je sais pas ce qu'il en dit, je sais pas s'il en dit quelque chose, je sais pas ce qu'il en connaît. Voilà, difficile de...
Mais c'est ça qui m'a pourquoi on fait cette émission. C'est ça qui me fascine. Comment on peut... Il y a même pas de procès, rien. Hein, comment on peut passer à côté de quelque chose. Tu sais, quand, tout à l'heure, tu as parlé de Walter Benjamin. Walter Benjamin, il est là, il fuit l'Allemagne nazie, il vient même en 40, etc. Les surréalistes vont quand même passer à côté. Je crois que c'est Aragon qui va quand même pouvoir s'intéresser à ça. Mais tu ne trouves pas de traces véritablement de Walter Benjamin, tu vois. C'est-à-dire que tu passes à côté de quelque chose.
Je crois qu'il y a beaucoup de réseaux pas forcément fermé, mais en tout cas dans lesquels on rentre pas forcément. Dans les réseaux artistiques, on sait que ça fonctionne en café, des choses comme ça. Oui. Est-ce qu'on se rend compte? Comment on se rend compte? C'est des logiques un peu de salon. Enfin, c'est étonnant. Oui. Je vais te raconter un truc sur Benjamin.
Vas-y, je t'en prie, oui.
Et Gaston Prunier.
Ah bien, ouais. Tu peux rester. Très bien.
Non, c'est quelque chose assez rigolo qui m'a toujours fasciné, même si... il n'y a pas de conclusion à en tirer. Mais Gaston Prunier avait son atelier dans une petite rue du 15e arrondissement qui s'appelle la rue Dombasle. D'accord. Et donc voilà, je me suis, à une époque, il y a quelques années maintenant, je me suis bien fréquenté régulièrement cet endroit-là. Et puis un jour, je m'arrête devant un immeuble qui est dans la même rue, je ne sais plus à quel numéro, il y a une petite plaque. Et c'est marqué, Walter Benjamin a vécu ici, c'est son dernier domicile en fait, avant l'exil. Rue Dombasle, tout ça. Et ça a fait écho... D'une certaine façon, Benjamin a un discours sur les fantômes. Enfin, c'est pas au sens des fantômes avec des chaînes et des trucs comme ça, mais sur les présences, sur ce qui demeure de l'activité des gens. Et je me suis imaginé donc Benjamin en sortant, puisqu'il a quand même vécu quelques années à cet endroit, donc il croisait en quelque sorte le fantôme de Prunier qui lui était déjà décédé. Mais donc ces deux-là se sont croisés d'une certaine manière.
Pour ponctuer l'histoire des fantômes de Benjamin très rapidement, Benjamin va fréquenter Bertolt Brecht. Il va être très influencé par Brecht et il va devenir marxiste, si tant est que ce soit possible pour lui, simplement parce qu'il a été très proche d'un type qui s'appelle Gershon Scholem, qui était un écrivain et un philosophe juif qui partira en Israël. Et là, c'est tout le monde de la tradition, justement des revenants, de la transparence, des esprits. Et toute sa vie, ça va être la déchirure, de la grande déchirure de Benjamin. C'est ce côté, révolutionnaire, marxiste, tout ce que tu voudras. Et en même temps, il y a toute cette tradition dans sa tête. Personnage fabuleux. Bon, maintenant, vous allez travailler un petit peu là. C'est qui ce personnage, Paul Baudouin, dont je n'ai franchement jamais entendu parler?
Paul Baudouin.
C'est une création de Nicolas Leprand ou pas? Il existe vraiment.
Je ne peux pas le dire. Oui, c'est tout a été généré par IA. Donc on a se dit qu'il fallait inventer un peintre. Non, c'est un peintre qui a existé. Alors j'ai plus ses dates exactement en tête, mais bon, pas grave. On les retrouvera à l'occasion. Oui, 1844-1931. Paul Baudouin, il se trouve qu'en fait, c'est un peintre qui a un lien familial avec Élisée Reclus. Je ne sais pas sur le lien familial, mais par alliance, via une de ses sœurs qui s'appelle Louise, il est lié familialement et un peu amicalement avec ce peintre qui est plus jeune que lui, qui a 14 ans de moins que lui, ce qui n'est pas énorme, Paul Baudouin. Paul Baudouin, effectivement, c'est un nom qu'on a complètement oublié. C'est un élève de Puvis de Chavannes, qui est un peintre aussi assez largement oublié aujourd'hui, mais qui est un peintre important dans le 19e siècle. Donc Baudouin en fait l'élève de Puvis de Chavannes, et dans le sillage de Puvis de Chavannes ils vont être les initiateurs d'un renouveau de la fresque.
C'est dur l'alcoolisme. C'est dur l'alcoolisme.
Oui, ça, j'ai déjà descendu une demi-bouteille de gin. Oui. Pourtant, mon élocution reste assez...
C'est parfait, c'est assez, parfait. Assez
Et il faut savoir que donc, dans le courant du XIXe siècle, on va se réintéresser, redécouvrir un certain nombre de techniques.
Dont les mosaïques, c'est ça ?
Il y a les mosaïques, influencées par les découvertes ou l'intérêt pour l'archéologie, donc des sites romains, tout ça. On va redécouvrir la mosaïque. Et puis aussi la fresque, qui est une technique de peinture qu'on peut faire directement sur les murs des bâtiments. Donc, de quel bâtiment ? Parce que c'est ça qui va être intéressant. Ça va être beaucoup les mairies. La Troisième République construit des mairies, donc des sites qui doivent être porteurs de la laïcité de la République, qui, d'une certaine façon, sont un peu les cathédrales de la Troisième République. Et puis aussi dans les gares. Les grandes gares, là, je sais que par exemple, là, ceux qui peuvent, qui ont l'occasion de fréquenter la gare de Lyon.
La gare de Lyon, bien sûr, avec toutes les villes reproduites, magnifiques.
Voilà, oui. ça a été rénové il y a assez peu de temps. Gare de l'Est, il y a des choses assez semblables. Donc en fait, si on lève les yeux un peu au plafond de ces grands bâtiments, on trouve des fresques un peu partout. Les bibliothèques aussi, qu'on contient ce genre de choses, bibliothèque Sainte-Geneviève, voilà. Et donc Paul Baudouin va faire une bonne partie de sa carrière. À mettre au point cette technique, ou la remettre au point, de certaines façons, mais avec peut-être des outils et des produits modernes, et puis aussi à en réaliser un peu partout. Donc lui, il est originaire de Normandie, de Rouen, donc il va pas mal travailler par là-bas, et donc ce qu'a été la mairie de Rouen contenait pas mal de ses fresques, qui ont subi les outrages des bombardements 44-45, mais je crois qu'il y a une bibliothèque parisienne qui contient certaines de ses fresques, je ne sais plus si c'est Sainte-Geneviève ou une autre proche, voilà. Mais notamment, c'est là où ça va être intéressant dans notre histoire, c'est qu'il va... décorer la bibliothèque François Villon à Rouen. Donc si ceux qui connaissent Rouen, il y a le musée des Beaux-Arts d'un côté, et dans le dos du musée des Beaux-Arts, il y a cette bibliothèque François Villon, ce qui, donc, qui nous ramène vers le surréalisme un peu, mais Paul Baudouin va être invité à travailler sur le thème de l'écriture, la naissance, la découverte de l'écriture, de la lecture, donc le thème qui accueille, en fait, pour accéder à la salle de lecture de cette bibliothèque, on monte un escalier un peu majestueux, et de part et d'autre de cet escalier, il y a quatre fresques qui accueillent le lecteur et qui donnent une sorte de parcours chronologique de l'acquisition de l'écriture et de la lecture.
C'est une peinture officielle.
Je pense que c'est une peinture officielle avec message.
Avec message, c'est ça. Voilà.
Et en fait, je suis retombé sur, un peu par hasard, jamais par hasard, mais sur un échange de correspondance entre donc Élisée Reclus et ce peintre Paul Baudouin, au sujet de la conception du choix des motifs qui allaient être représentés par le peintre. Donc Reclus, dans une lettre à Paul Baudouin, raconte qu'il lui a rendu visite dans son atelier, donc il a dû voir des ébauches, tout ça, et il lui fait d'autres propositions par rapport au sujet qu'il a choisi. Et donc il y a notamment, alors il y a quatre, j'ai plus tout en tête, mais il y a quatre panneaux, donc il y en a, je crois que le premier c'est la découverte des signes, donc des premiers signes gravés sur une pierre, voilà. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Le second, justement, le peintre avait prévu de figurer les Romains qui développent l'écriture, et justement, Reclus lui fait une critique en lui disant « Oui, mais enfin... quoi de bien différent entre votre premier tableau et puis évoquer l'Empire romain, c'est quand même évoquer une puissance coloniale. Donc voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt intérêt à faire un autre sujet qui serait l'échange par les des Phéniciens, c'est en fait l'objet d'une découverte archéologique récente, qui remontaient la Seine jusqu'à Rouen et qui auraient amené l'écriture ou pu l'amener aux habitants de cet endroit. Et donc c'est là où donc on est dans une peinture très, très classique, très figurative, hein, de ce point de vue-là, c'est très sage, mais le Reclus s'attache au message. C'est-à-dire que plutôt que de valoriser, donner à voir la Rome impériale et colonisatrice, qui peut faire écho à la France coloniale ou à ce genre de pays, il met en valeur un échange entre des peuples. Un échange qui ne se fait pas par la voie des armes, qui se fait entre égaux. Donc voilà une des influences de Reclus sur, sur ce travail de peinture, qui est intéressant et révélateur. Et de fait, ce qui va être réalisé par le peintre, c'est bien la suggestion de Reclus, puisqu'il représente des Phéniciens, on voit dans le tableau les hauteurs de la Seine, et ces Phéniciens offrent un parchemin aux populations qui habitent la basse vallée de la Seine à cette époque.
C'est très drôle parce que c'est mes petites notes que j'ai prises en émission. Ces trois ou quatre personnes dont on parle depuis tout à l'heure là, échappent à un mouvement qui est un mouvement très social, et très cru et très visuel et très pictural. C'est le naturalisme. On a quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Zola, il descend dans la matière. Mmh. Tu as un livre qui s'appelle L'œuvre. Mmh. L'œuvre, je ne sais pas si c'est l'œuvre de Zola. Mmh. Je crois qu'il parle de Cézanne, où le peintre peint un enfant mort. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans l'idée, il est dans la matière. Et c'est ça qui me surprend, sur ces trois, quatre personnages-là. On est dans l'idée, on reste dans l'idée, on n'est pas du tout dans la matière.
Ouais. Oui, je n'avais pas réfléchi comme ça, voilà. Mais effectivement, il n'y a pas. Oui, de toute façon, il y a quand même l'idée de la révolution, l'idée du progrès social, c'est-à-dire comment mettre en route, comment éduquer, comment édifier, donc transmettre un message. Et effectivement, contrairement à ce que disait un peu Bakounine, c'est-à-dire il y a quand même l'essence, la pulsion de la vie et tout ça, on n'est pas tellement là-dedans.
Pardon. Oui, bien sûr, c'est ce que je veux dire. Il y a une absence totale. On demeure dans l'idéologie, c'est-à-dire dans l'illustration. Et lorsque la peinture bascule, les gens comme Monet, on n'est plus dans l'illustration. Ils sont dans la matière. Si tu vois les nymphéas, on est dans la matière. Voilà, c'est ça qui est absolument étonnant.
S'agissant de Reclus. Et la peinture, c'est vrai, dans son approche de la peinture, et je pense que dans ce domaine, il est un peu le continuateur de Proudhon, enfin, il est inspiré par Proudhon, c'est beaucoup moins vrai dans son approche de la littérature. Mmh. Puisqu'il produit lui-même une littérature qui est quand même très, très sensible, très, qui cherche à transmettre des sensations, enfin, là, qui n'est pas dans l'idée. Et ça n'empêche pas d'avoir des idées derrière. On parle beaucoup de ces deux livres, Histoire d'un ruisseau, Histoire d'une montagne, où on voit assez souvent, disons, de la poésie, poésie sur la nature et tout ça. Il y a aussi tout un arrière-plan ou un plan parallèle qui est pédagogique. C'est-à-dire que tout ça va de pair.
Ça, c'est le mot ouais. Depuis tout à l'heure auquel je vais t'entendre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut faire de la pédagogie.
Oui, ça va être aussi l'autre, la pédagogie, l'éducation. Ça va être quand même la chose très importante à laquelle les anarchistes vont s'intéresser et qui vont constater comme étant nécessaire.
C'est l'époque de Pelloutier.
Oui, on y arrive. Oui, oui.
C'est l'époque de Pelloutier. C'est pas les musées populaires, c'est les.
Ben en fait, Pelloutier est un peu là-dedans. C'est-à-dire que Pelloutier va aussi avoir l'idée, à travers les bourses du travail, d'en faire aussi des lieux d'éducation artistique. Ça va peut-être faire, se faire ponctuellement, je crois que ça ne va pas beaucoup se faire, mais on est en plein dans le mouvement d'éducation populaire, c'est-à-dire d'une éducation qui s'adresse à la majorité, au peuple, et qui peut aussi se faire tout au long de la vie.
Je vais te raconter moi aussi une histoire avant qu'on se quitte. C'était un plaisir. On va rappeler aussi où ça se passe, hein, tout ça, parce que non, quand même que tu saches où tu vas. Donc voilà, c'est quel métro ?
J'ai pris des notes.
C'est bien, Nicolas, c'est bien. Notes. Donc c'est quel métro, Nicolas ?
Je vais l'écrire au stylo bille sur ma main.
Tu l'as, là ?
Je ne vais plus me laver jusqu'au 14 juin.
Le 14 juin.
Voilà, donc c'est un colloque, ce colloque dans lequel j'interviendrai aux côtés de bien d'autres. Ça se passera le 14 juin dans un local qui s'appelle l'AERI. Ça se trouve 57 rue Étienne Marcel à Montreuil. Métro Croix-de-Chavaux.
Croix-de-Chavaux, bah oui, voilà. Ouais, voilà. Donc je vais te raconter une histoire, qu'on est en plein dans le sujet, on aurait même pu commencer par là, mais ça va être la morale de cette histoire. Lorsque Staline est mort, oui. Je crois que c'est 53, ça doit, ouais, doit être ça, là, Aragon doit être directeur des lettres françaises. Et là, il demande à Picasso un portrait de Staline. Ouais. Picasso va faire un portrait du moustachu, du grand moustachu, stylisé, la tête carrée, etc. etc. Scandale. Scandale. Le scandale de la direction du PC, qui est à l'époque le parti du peuple, le parti du peuple. Scandale. On ne peut pas faire passer ça.
C'est-à-dire que, effectivement, je connais l'anecdote, et le portrait est, comment dire, ni édifiant, ni... assez banal, oui, antipathique.
Pas antipathique, avec une petite base de cubisme. Mmh. Il n'y a rien. Ce n'est pas notre Joseph préféré. Hein.
C'était pas un grand saint. Voilà. En tout cas, il n'est pas présenté comme ça. Et c'est ça ce qui a fait scandale. Parce que c'est même pas critique en soi.
Oui, mais c'est pour ça qu'on est en plein là, dans le discours, on va appeler ça scolairement, du contenant et du contenu, on est de la forme et de ce qui est dit, et ça fait scandale. Aragon va tenir, il était suffisamment influent pour ça, et ça va passer. Ça, c'est édifiant, quoi. Ça, c'est édifiant. Bon, c'était un plaisir.
Pareil.
Hein, voilà, je t'accompagnerai peut-être le jour du le 14, ça vaut mieux en ton état aujourd'hui.
Oui, c'est de me tenir un peu la main. Tu pourras me rappeler.
Et je t'engage aussi à lire Fugue opus 36, Éric Rondepierre. Beau livre. Ça se lit en 2 heures.
Tu m'as donné envie, en tout cas.
Mais il y a plein de flèches à tirer. Très bien fait. Hein, édition Marest. Et puis on remercie Monique en cabine.
Remercions Monique, voilà, sans laquelle nous ne serions rien. Voilà.
Je voudrais quand même dire que votre téléphone a sonné pendant l'émission. Moi, je ne suis pas une balance, mais quand même, monsieur Nicolas.
Oui,
merci, Monique.
kondo sarabo misa yanongo busa busu tasenge mwane timutu mumute mama busa le akipavome mwana mema isuku shangwe mshoshe kele tuat 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 tuat
Freddy, joue-nous sur ta guitare l'histoire où l'on s'aime toujours. Ce soir, je me sens le cœur lourd. J'ai besoin de chansons d'amour. C'est loin. Mais je revois si blanche ta barbe à travers la fumée et ton visage qui se penche. On dirait que tu vas chanter. Une douce émotion m'oppresse, mais je suis en train. Freddy, où donc est ta guitare et la chanson que j'aimais tant lorsque j'avais des idées noires et ça m'arrivait bien souvent. Freddy, l'existence est bizarre, beaucoup de ceux que j'aimais sont loin déjà dans le passé. Où sont donc mes 20 ans, Freddy?
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son barda contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va en guérilla, dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Parti pour mourir un peu à la guerre. C'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours, quand revient l'été, qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pas cadencé. Des hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour. Elle n'aime que le son du tambour. Un soldat s'en va en guérilla, des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guérilla, simplement toute la veine et puis voilà. Simplement toute la veine et puis voilà. Simplement toute la veine et puis voilà.
Tu additionnes, tu multiplies les petits câlins anonymes. Et les cartouches tout en douceur, mélodie. Si tu savais ce qu'il faut dire pour la faire mouiller la machine. Je m'allume et je passe sur Manuel, sur tes lèvres comme un lipsus. Et tu caresses ton personnel pour éviter que les mains ne causent. Laisse pas tomber comme ça les filles, ça ferait ton peine à rose. Pourquoi veut-il, grand Manitou, que le magicien dose? Je m'allume et je passe sur Manuel, sur tes lèvres comme un lipsus. Les porteurs n'iront pas plus loin, pas plus loin. Docteur Livingston le sait bien. Nous ne quitterons pas cette île de rêve sans jeter un dernier regard. À colorier chez soi ou à consumer sur place.
Ici, ailleurs ou autre part, il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé, et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver, et tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans, qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui, depuis qu'on est toi et moi, nous revient 7 fois par semaine. Et nos soirées sans cinéma, et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en mon pauvre amour. Les belles années passent vite. Mais maintenant tu vas partir, tous les deux nous allons vieillir, chacun pour soi, comme c'est triste. Tu peux remporter le phono, moi je conserve le piano, je continue ma vie d'artiste. Plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès, mais un peu triste, toi qui sais, tu lui diras que je